Voilà, bonjour, je suis heureux de vous accueillir pour cette série de quatre leçons sur le livre d'Esther. Il faudrait dire sur les livres d'Esther, parce que vous allez apprendre qu'il n'y a pas un seul, il y en a trois ou quatre, ça dépend comment on compte les choses. Un livre qui pose quand même un certain nombre de problèmes, mais ce n'est pas moi qui vais vous en parler. C'est mon collègue et ami Jean-Daniel Maki qui a accepté de venir un mois à Paris pour vous dévoiler tous les mystères du livre d'Esther. Alors, Jean-Daniel Maki, je vais le présenter brièvement. Il m'a dit de ne pas trop traîner parce qu'il a beaucoup de choses à vous dire, donc je serai bref et concis. Jean-Daniel Maki est donc actuellement professeur d'Ancien Testament à l'Université de Genève. Il a d'abord fait des études pas du tout de théologie ou des sciences bibliques. Il a commencé comme architecte, donc si vous avez des questions d'architecture, vous pouvez également les poser. Ensuite, donc, il a décidé de bifurquer vers les études de théologie et plus particulièrement les études de sciences bibliques. Donc on se connaît depuis longtemps. Moi, j'ai commencé en 84 comme petit assistant d'hébreu à l'Université de Genève. Jean-Daniel Maki faisait partie de la première volée d'étudiants qui ont dû subir mes cours d'hébreu. Et ensuite, j'ai eu la chance aussi de l'avoir comme assistant. Et puis voilà, maintenant, il est professeur et collègue. Alors, Jean-Daniel Maki a écrit évidemment beaucoup de choses. Je voulais juste vous signaler deux livres. Son travail de fin d'études a été jugé tellement important que c'est rare que ça ait été publié comme livre. C'était sur les Samaritains. Les Samaritains, histoire d'une légende. Donc, si vous voulez savoir tout sur l'origine même de ces fameux Samaritains, sur les textes bibliques qui en parlent, c'est un livre que vous pouvez toujours consulter. Je vais le faire passer. Et puis, sa thèse de doctorat a été donc consacrée à un texte également très important, les sentences tribales à la fin de la livre de Genèse. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. En Genèse 49, vous avez toute une série de sentences sur les 12 tribus d'Israël, dont on ne sait pas toujours très bien comment il faut les comprendre. Et Jean-Daniel Maki a proposé une lecture tout à fait pertinente qui est parue donc dans la série OBO. Je vous fais également passer Israël et ses tribus selon Genèse 49. Puis évidemment, mais je ne vais pas vous citer tous ces articles, vous pouvez regarder sur son site et vous trouvez tout ça. C'est sur le deuxième Ésaïe, sur des questions liées à la mort, à la résurrection, et toutes sortes de choses. Mais maintenant, depuis un certain nombre d'années, il consacre sa vie scientifique au livre d'Esther, un petit livre, mais qui a quand même beaucoup de difficultés. Il prépare un commentaire qui devrait paraître sous peu. Il va profiter d'ailleurs des 4 semaines qu'il est ici aussi pour avancer dans ce travail-là. Donc, ne l'invitez pas tous les soirs. Donc laissez-le travailler un tout petit peu. Un commentaire qui paraîtra en langue française et en langue anglaise presque en même temps. Et dont vous allez maintenant déjà avoir quelques aperçus. C'est vraiment là, ici, la devise du Collège de France, le savoir en train de se faire. Donc, Monsieur Maki, donc vous fera part de ces résultats qui paraîtront ensuite sous forme d'un commentaire. Voilà, donc juste question pratique, vous avez peut-être vu les 3 premiers cours auront lieu les lundis, ici, et puis le dernier cours pour le pont de la Toussaint. On a jugé que le lundi, peut-être même, je ne sais pas, le collège est fermé, peut-être, le pont de la Toussaint. Voilà, oui, donc du coup, le dernier cours sera le mercredi, ça fait quoi, le 4, le 2. Très bien. Voilà, alors je lui donne la parole, et puis je le remercie encore une fois d'être ici. Merci.
Merci à toi, Thomas, de cette invitation. Merci à vous tous d'être venus aujourd'hui. Alors, durant cette première leçon, je vais essayer de vous présenter les enjeux généraux concernant le livre d'Esther. Les fois suivantes, on regardera des problèmes particuliers et on lira 2 textes que j'ai choisis comme étant des textes un peu caractéristiques de l'œuvre. Dans la première partie de cette leçon, je vous proposerai quelques remarques générales à propos du texte hébraïque du livre d'Esther, donc son contenu, ses spécificités littéraires et historiques, Et puis, je donnerai aussi quelques indications à propos des principaux thèmes qui sont traités dans ce livre. Et puis, dans la deuxième partie de cette leçon, je vous parlerai des différents textes du livre d'Esther, les différentes versions qu'il existe, puisque le livre d'Esther nous est parvenu sous trois formes textuelles au moins variantes, une en hébreu et deux en grec. Et puis, j'ai laissé tomber les versions latines parce que je pense que ça fait déjà assez comme ça pour aujourd'hui. Voilà. Alors, quelques mots d'introduction, quelques remarques introductives à propos du livre d'Esther. Je pense évidemment qu'avant de venir suivre ce cours, vous avez probablement lu ou relu le livre d'Esther. Par les quelques remarques qui vont suivre, je vais quand même essayer de mettre en évidence certains éléments qui se dégage de ce livre. Alors, voilà. Commençons par préciser quelques points sur la structure, sur l'organisation du texte, de l'œuvre. Le livre d'Esther raconte comment une juive vivant dans la lointaine Perse, la Perse du roi Xerxès Ier, eh bien, comment cette jeune femme sauve son peuple. Après la destitution de la reine perse Vashti, donc ça c'est le chapitre 1, Esther, qui est en fait la fille adoptive d'un juif appelé Mardochée, devient reine à la suite d'une sorte de concours de beauté qui implique toutes les belles jeunes filles du royaume. C'est ce qu'on trouve dans le chapitre 2. Un conflit se déclenche entre un personnage qui s'appelle Haman, qui est nommé premier ministre, et Mardochée, qui refuse de se prosterner devant lui. Par mesure de rétorsion, Haman obtient la proclamation d'un décret royal ordonnant d'exterminer tous les juifs de l'Empire. Mais ça, 11 mois plus tard. À la date du 13 Adar. C'est ce qu'on trouve au chapitre 3. Mardochée demande alors à la reine Esther d'intervenir auprès du roi, ce qu'elle accepte malgré les risques mortels qu'elle encourt. Chapitre 4, que nous lirons lors de notre troisième leçon. Elle se présente auprès du roi et l'invite en compagnie d'Aman à un mystérieux banquet, au terme duquel elle les invite une nouvelle fois pour un autre banquet le lendemain, c'est chapitre 5, versets 1 à 8. Au sortir du premier banquet, Haman est irrité, finalement de plus en plus, à la fois irrité et sûr de lui, alors il érige un gibet destiné à pendre Mardochée avant, disons pour ce faire, il doit aller demander l'autorisation au roi, donc il érige ce gibet. Donc ça, c'est la fin du chapitre 5. Malheureusement pour lui, durant la nuit, le roi lit les annales et se souvient d'un complot qu'avait déjoué Mardochée. Il nous raconte ça au chapitre 2. À son arrivée au palais, il demande donc à Haman ce qu'il s'agit de faire. Le roi demande à Haman ce qu'il s'agit de faire à quelqu'un que le roi veut honorer, pensant qu'il serait lui-même le bénéficiaire des honneurs. Le premier ministre Haman suggère de faire parader cette personne vêtue royalement dans la ville. À son grand désarroi, évidemment, le roi lui ordonne d'organiser ça pour Mardochée. C'est le chapitre 6. Cette tâche accomplie, Haman a à peine le temps de rentrer chez lui qu'il est convoqué au deuxième banquet durant lequel Esther demande au roi, cette fois, le salut de son peuple en accusant Haman d'être la cause du drame. Le roi condamne Haman, qui est pendu au gibet qu'il destinait à Mardochée, et Mardochée est nommé premier ministre à sa place. C'est le chapitre 7. Malheureusement, coup de théâtre, lorsqu'Esther demande au roi d'annuler le décret frappant les Juifs, celui-ci lui signale qu'un décret royal ne peut pas être révoqué. Un deuxième décret est donc proclamé permettant aux Juifs de se défendre de leurs ennemis. C'est le chapitre 8. Le 13 Adar, donc le jour prévu pour ce fameux massacre, les Juifs se défendent et arrivent à battre leurs ennemis, le 13 et le 14 Adar, à Suse. Et le jour suivant, ils fêtent leur victoire. Mardoché institue une fête annuelle qui s'appelle Pourim, la fête des destinées, peut-être on pourrait dire, et gère désormais l'Empire. Tout ça, c'est le contenu du chapitre 9 et du chapitre 10. 10, c'est très court, c'est 3 versets. Voilà, donc voici un petit peu le résumé rapide, les grandes lignes, pour qu'on se remette tout ça en mémoire. Ce qu'on peut noter d'abord, c'est que le livre d'Esther est un petit roman dont l'intrigue et la narration sont très astucieusement menées. Comme souvent dans les romans, le livre s'ouvre par l'exposé d'une situation de départ. On peut dire que c'est les chapitres 1 et 2 qui décrivent d'une part le contexte dans lequel le récit va se dérouler, à savoir la luxueuse cour du roi perse, avec d'ailleurs un fonctionnement assez étrange de cette cour. Et on présente d'autre part les protagonistes, en l'occurrence une juive devenue reine, et un peu par hasard, et son père adoptif Mardoché. Situation de départ. Ensuite, il y a une difficulté qui se présente, le chapitre 3. Cette difficulté déclenche l'action proprement dite. Dans le livre d'Esther, la volonté d'Aman de nuire aux Juifs constitue le nœud de l'intrigue, puisque après avoir manipulé le roi, Aman parvient à faire émettre un décret d'extermination. Plusieurs personnages vont intervenir afin de contribuer au retournement de la situation. Alors d'abord, Mardoché va demander à la reine d'agir au chapitre 4. Esther va organiser des banquets et profiter de l'occasion pour dénoncer le complot d'Aman, chapitre 5 et 7. En outre, une mystérieuse insomnie royale va conduire le souverain à faire honorer Mardoché, c'est au chapitre 6. Et au fond, ces différents épisodes aboutissent à un premier dénouement lorsqu'Aman est condamné à mort, chapitre 7. Tout pourrait s'arrêter là si, ben évidemment, comme dans les bons romans, un rebondissement ne survenait. On apprend, chapitre 8, qu'un décret perse ne peut pas être annulé, ce qui oblige à proclamer un nouveau décret permettant aux Juifs de se défendre de leurs ennemis. Le récit se termine par la situation finale, au chapitre 9, à la fin du chapitre 9, une sorte de happy end, où à la fois les Juifs ont triomphé, Mardoché dirige pour le bien de tous l'Empire, et une célébration est organisée. Donc voilà une espèce de construction, si vous voulez, romanesque et assez classique. Dans ce texte, on trouve également humour et ironie. Le lecteur peut au fond peut que rire lorsqu'au chapitre 1, le roi a passé plus de 6 mois à célébrer dans le luxe et l'ivresse son prestige. Et puis, au moment où il demande à la reine Vashti de venir, elle ne vient pas. Donc, d'une certaine manière, il est privé du clou du spectacle. Au chapitre 6, on trouve également une pointe d'humour assez évidente. On lit qu'Aman est tellement orgueilleux qu'il ne peut même pas s'imaginer que le roi puisse vouloir honorer quelqu'un d'autre que lui. On peut aussi discerner quelques traits ironiques dans le fait que, parce qu'il a tiré au sort, le massacre des Juifs est au fond programmé pour 11 mois à l'avance, comme si au fond on donnait à l'ennemi la possibilité de se préparer au conflit. Voilà, donc, mais ça, c'est vraiment une caractéristique, je pense, assez particulière de ce livre d'Esther qu'on ne trouve pas nécessairement tellement ailleurs dans la Bible hébraïque. Le texte met aussi en évidence la psychologie et le fonctionnement, les motivations des personnages, ce qui est plutôt là aussi assez rare dans la littérature biblique. Au chapitre 1, on assiste à la mise en place d'une solution inadaptée par des conseillers du roi qui sont ivres et qui destituent la reine, qui en même temps oblige à plusieurs années de recherche pour en trouver une nouvelle. Donc voilà un empire qui fonctionne bien étrangement. Au chapitre 5 et 7, les auteurs racontent l'utilisation par Esther de banquets et de l'ivresse pour qui au fond sert à qui permet à la reine de se rapprocher de son souverain mari, et c'est grâce à ça qu'elle parvient à condamner son ennemi. Au chapitre 4, le dialogue entre Esther et Mardoché, il nous décrit une forme de conflit de conscience. La reine est appelée à choisir entre risquer sa vie pour sauver son peuple ou rester cachée au sein de la cour perse. Donc on voit là à nouveau des formes de réflexion sur la psychologie des personnages. On peut ajouter que le suspense est présent de manière assez nette dans ce texte, notamment... évidemment, on se demande si Esther va, en lisant le texte, on se demande si elle va accepter de risquer sa vie pour agir. Et puis ensuite, on se demande même qu'est-ce qu'elle prépare avec ces fameux deux banquets. Elle invite au banquet, puis à la fin du banquet, elle réinvite au banquet. On se dit, mais au fond, finalement, qu'est-ce qui se prépare? Ou est-ce qu'elle simplement elle hésite? Ou est-ce que c'est une stratégie? Voilà, tout ça, c'est des motifs littéraires assez intéressants. Toujours au plan, et ensuite je vais arrêter avec ces motifs littéraires, mais encore un dernier que je pourrais encore signaler, c'est le thème du retournement de situation, qui est quand même un motif assez classique, et puis une sorte d'opposition entre l'élévation des personnages et leur chute. Amon est élevé par deux fois au cours du texte, d'abord par le roi, qui le nomme premier ministre, puis par Esther, qui l'invite à l'égal du roi, au chapitre 5. Et puis, il tombe à deux reprises, également, une fois au chapitre 6, au moment où il doit honorer son ennemi, évidemment au chapitre 7, au moment où il est condamné à mort par le roi. Avec d'ailleurs un autre trait d'ironie, puisqu'il tombe en étant en fait élevé au gibet. Évidemment, c'est un grand classique. Oui, mais écoutez. Oui, oui, mais je sais pas, je vais peut-être. On me laisse, je termine et puis on prend peut-être ce type de questions à la fin. On peut dire aussi, si vous, je suis tout à fait d'accord de discuter avec vous, mais c'est. Mardoché fait le parcours inverse, donc. Lui, il est. D'une certaine manière, il chute deux fois également, puisqu'il est condamné avec les Juifs, évidemment, au chapitre 3, et puis au chapitre 5, il est, d'une certaine manière, en tout cas, Aman tente une nouvelle fois de le condamner à mort. Avant, évidemment, le rebondissement où il triomphe, là aussi, par deux fois, au chapitre 6, puis au chapitre 8, à la fin du récit, où il devient, au fond, un triomphe. Dirige l'Empire perse. Le livre utilise plusieurs autres motifs de type romanesque importants. Les banquets marquent les étapes principales du récit. On en retrouve pas moins de 10 qui apparaissent souvent par paire. Ainsi, le récit s'ouvre par deux banquets royaux et se termine par deux banquets de Pourim, alors qu'en son centre, Esther organise deux banquets. Dans ce contexte, le jeûne d'Esther, au chapitre 4, juste à la fin du chapitre 4, Esther ordonne un jeûne, mais au fond fait figure ce jeûne qui prépare au dénouement de l'intrigue, fait figure d'anti-banquet organisé au moment où la tension dramatique est la plus forte. Le thème du décret royal, qui apparaît à 4 reprises, souligne l'universalité, la puissance et l'organisation de l'Empire. Il montre aussi les limites et l'absurdité, la complexité de ce système, puisque tout un débat juridique doit être organisé pour régler un problème conjugal, ça au chapitre 1, et le roi est manipulé par ses conseillers, notamment Aman, pour promouvoir le décret de persécution, et puis ce décret lui-même peut être annulé. Voilà, ça c'est un peu les... quelques grands motifs qui apparaissent dans le livre. Maintenant, je vais essayer de vous montrer que cette astucieuse façon de mener le récit comme une forme de, pourrait dire, de roman historique oblige à se méfier d'une lecture historique au premier degré. Même si le texte raconte un récit situé historiquement, il ne s'agit pas à proprement parler d'un texte historique. Il a été rédigé probablement plusieurs centaines d'années après l'époque dont il parle. Alors, voyons ce qu'il en est. Ce qu'il faut noter, c'est que le livre d'Esther est situé dans un cadre général compatible avec ce que les habitants du monde méditerranéen antique savaient de la Perse. Ils le savaient au travers de toute une série d'historiens grecs, Hérodote, Xénophon, Ctésias. Nous verrons tout ça la prochaine fois, mais vraiment une des caractéristiques du monde de la littérature grecque, c'est de précisément traiter de la question de l'Empire perse. Le livre situe l'action sous Xerxès Ier, durant une période, donc au VIe siècle, durant une période où l'Empire perse est à son apogée et s'étend de l'Asie mineure au nord-ouest, à l'Inde, à l'est et à l'Égypte au sud. C'est exactement ce qu'il y a en Esther 1.1. La richesse de la Perse, la présence à sa cour de conseillers, d'eunuques influents et comploteurs, l'enregistrement, le fait qu'on enregistre les bienfaits dans les annales, l'existence d'une poste efficace, tout cela apparaît dans le livre d'Esther et sont d'une certaine manière corroborés par les historiens grecs. Donc à partir de là, on pourrait évidemment se dire, ben voilà, c'est un texte historique, hein, puisqu'il reprend des choses qu'on connaît par ailleurs. Mais il y a d'autres aspects de l'œuvre qui sont difficilement compatibles avec ce que l'on connaît de l'histoire de la Perse. Ainsi, la femme de Xerxès Ier est bien connue, elle s'appelle Amestris. De plus, en dépit de la documentation relativement importante dont nous disposons pour la période de Xerxès, les événements mentionnés en Esther ne sont aucunement rapportés par la littérature extra-biblique, donc à part le livre d'Esther. Et puis finalement, je crois que c'est surtout le caractère fortement romanesque de la plupart des épisodes qui pousse à douter du fait que le texte rapporte des événements qui se seraient réellement déroulés au cours du règne du roi Xerxès. En fait, les exégètes considèrent souvent, et c'est la thèse que je défendrai durant ces quatre leçons, que le livre d'Esther a été rédigé durant l'époque de la domination grecque, donc l'époque hellénistique, au moment donc où les grands empires hellénistiques dominaient le Proche-Orient, donc entre 333 et 63 avant notre ère, mais on peut même être plus précis pour la datation d'Esther. Pour les auteurs du texte, il s'agissait alors de s'adresser à des Juifs qui vivaient probablement, soit ils pouvaient vivre dispersés hors de la terre d'Israël, en diaspora, ou dans le pays, mais dans les deux cas, ce lectorat, supposé par le livre d'Esther, était dominé par un empire étranger, en l'occurrence les grands empires hellénistiques. L'empire perse, décrit comme un lieu où des persécutions peuvent survenir, fait en réalité allusion aux dominateurs grecs et à certaines brimades subies par les Juifs en contexte hellénistique. Alors évidemment, le procédé littéraire consistant à parler d'un empire très ancien pour dénoncer les dominateurs contemporains est un motif littéraire et une utilisation tout à fait classique. Bon, rien que dans la Bible, évidemment, vous savez que l'évangile de l'Apocalypse de Jean parle de grande Babylone, mais fait référence à l'Empire romain. Ce qui est important dans le cadre d'une approche qui se veut historique et critique d'un texte biblique comme celui d'Esther, c'est de comprendre dans quel milieu socio-historique ont travaillé les auteurs, comment ils ont travaillé et pour exprimer quoi. En tout cas, la fonction du texte qu'il rédige n'est pas de décrire ce qui s'est vraiment passé, mais d'interpeller son lecteur contemporain pour l'inviter à se poser des questions sur son existence de juif confronté à un monde perçu comme hostile et à s'interroger sur son identité. À propos ce qu'on peut d'emblée noter, c'est que le livre d'Esther s'inscrit dans une culture et un système de référence qui est celui du judaïsme. Nous verrons la prochaine fois que ce bagage culturel juif n'est pas exclusif. Évidemment, on peut être d'une culture et partager un autre aspect, une autre culture. Mais ce qu'il faut d'abord noter, c'est à quel point les auteurs font usage du bagage culturel juif dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther reprend et retravaille toute une série de motifs et de thématiques qui sont présents dans d'autres textes bibliques. Alors j'ai pris trois exemples. Le livre d'Esther ressemble sous plusieurs aspects au cycle de Joseph, donc c'est la dernière partie du livre de la Genèse. Il s'agit de l'histoire du fils de Jacob qui est vendu par ses frères en Égypte et il devient premier ministre. Le parcours suivi par Esther et Mardoché est construit sur le modèle de celui de Joseph. Après quelques succès, Joseph, comme Esther et Mardoché, donc tombe au plus bas et risque de perdre la vie. Joseph est esclave en Égypte. Esther et Mardoché sont menacés de mort. Comme Esther et Mardoché, Joseph est installé dans une terre étrangère où, bien qu'il soit menacé, il finit par triompher, gouverner et sauver son peuple. Donc on a vraiment une construction assez similaire, assez parallèle. Il y a même certains détails du cycle de Joseph qui sont très proches de ce qu'on trouve dans le livre d'Esther. En Genèse, avec une formulation tout à fait similaire, Joseph conquiert la bienveillance de ses gardiens. D'abord, Monsieur Potiphar, son maître, puis les gardiens de prison, dans lesquels il doit passer quelques années en prison. Et puis au fond, Esther, on utilise la même formule pour dire qu'elle gagne la bienveillance de l'eunuque du roi et du roi. Donc on a des formules tout à fait analogues. En Esther 2, 21 à 23, il y a ce fameux complot d'eunuque. Et bien, dans le cycle de Joseph, il y a également un complot d'eunuque qui est mentionné, et puis le renversement de situation dans le livre d'Esther, il se passe quand ? En pleine nuit, au moment où le roi est insomniaque, et disons, associé à cette insomnie royale, eh bien, on a le retournement de situation qui fait que, comme il est insomniaque, il lit les annales royales et il souhaite honorer Mardoché. Retournement de situation dans la nuit à cause du sommeil du roi ou de l'absence de sommeil du roi. Et puis dans le cycle de Joseph, on a un phénomène relativement similaire. Cette fois, c'est des rêves du pharaon qui permettent le retournement de situation. Voilà. Le motif du repas, on pourrait pas multiplier les exemples, mais le motif du repas est également un motif très présent dans le cycle de Joseph. Le motif du vêtement est très important dans le cycle de Joseph et dans le livre d'Esther. Et le vêtement, si vous voulez, marque l'ascension sociale ou la chute sociale des protagonistes. Et ça, c'est vraiment le même procédé qui est utilisé dans les deux textes. Voilà. Et finalement, ce qui est peut-être le plus fascinant, c'est que dans les deux cas, l'action divine n'est pas apparente ou n'est pas en tout cas explicitement mentionnée. Mais elle se discerne comme ça derrière les événements et les actions des protagonistes du récit. Le livre d'Esther partage avec le cycle de Joseph l'idée qu'un juif peut vivre en terre étrangère en dépit de certains risques. Cependant, on remarque que dans le cycle de Joseph, le danger ne vient pas tellement des étrangers, mais des Israélites en fait. Hein. C'est au fond les frères de Joseph qui l'envoient en Égypte. Alors que dans le cycle, dans le livre d'Esther, il est clair que le danger vient d'Aman, enfin de ce personnage extrêmement dangereux et d'une certaine manière du système perse. Donc probablement que le livre d'Esther est plus sceptique sur la possibilité de vivre en diaspora. Bon, ça c'est le premier grand exemple qu'on utilise toujours pour montrer des similitudes. On pourrait également mentionner des similitudes avec le livre de l'Exode, avec Moïse. Mais là, je passe relativement vite, c'est assez classique. Voilà, Moïse, Esther est adoptée d'une certaine manière, Moïse aussi, enfin, au moment de la vocation de Moïse, il y a des hésitations, Moïse hésite à intervenir comme Esther au chapitre 4, etc. Puis il y a également des références. Donc ça, je développe pas trop. Pour la question d'Esther et des rois d'Israël, il y a également des éléments et des allusions qui se retrouvent. La plus classique, c'est celle qui indique que Aman est qualifié d'agagite, ce qui est probablement une allusion à Agag, roi d'Amalek, le roi des Amalécites, qui est en fait le premier peuple à combattre les Israélites dans le désert et qui est vaincu par Saül en 1 Samuel 15, mais qui n'est vaincu que très partiellement, puisque Saül ne détruit pas entièrement les Amalécites. Voilà, donc là, on a probablement là aussi une petite allusion à cet épisode. Un peu comme si, disons, on pourrait dire que Mardochée termine le travail que Saül n'avait pas effectué. Souvent, les gens lisent l'allusion à Amalek présent dans la nationalité d'Aman, Aman l'Agagite, dans ce sens-là. Voilà. Maintenant, quelles sont les principales thématiques développées ? Le rédacteur du livre d'Esther, ils n'ont pas simplement cherché à divertir leur lectorat en construisant un joli roman bien écrit, mais ils ont aussi cherché à exprimer certaines idées et réflexions. On peut dire d'une certaine manière que ce texte peut être compris comme une sorte de programme de vie pour les Juifs confrontés au monde hellénistique. Tout d'abord, ce livre pose la question de l'action et de la responsabilité humaine en situation de minorité et invite à réfléchir à la nécessité d'assumer sa propre identité. Au début du récit, les figures principales taisent leur identité juive. Le nom même d'Esther et de Mardochée, ils sont probablement d'étymologie mésopotamienne, masquent leur identité. En outre, dès qu'elle entre à la cour perse, le texte précise qu'Esther n'avait révélé ni son peuple ni sa parenté, car Mardochée lui avait interdit de le faire. C'est la citation que j'ai mise ici. Dès lors, un des principaux enjeux du récit va être de savoir quand ces Juifs vont dévoiler leur identité. Alors Mardochée le fait quand il refuse de se prosterner devant Aman, au chapitre 3, verset 4, ce qui débouche sur un terrible malheur, puisque tous les Juifs sont condamnés. Le texte ne suggère pas pour autant qu'il aurait mieux fait d'appliquer la consigne donnée à sa fille adoptive et de continuer, au fond, à ne pas dire qu'il était juif, et pourquoi pas se prosterner. Mais le texte, invite le lecteur à réfléchir à l'importance de la révélation de l'identité, au travers de cette figure d'Esther qui va elle aussi être amenée à dévoiler qu'elle est juive et s'engager brillamment pour le salut de son peuple. Le dilemme est de savoir s'il faut dévoiler son judaïsme et quand il faut le faire. Or, ce dilemme posé au protagoniste du récit s'adresse en fait au lecteur. Le livre d'Esther vise à faire comprendre à des juifs tentés par l'assimilation ou le compromis culturel, on pourrait dire, qu'à l'exemple d'Esther et de Mardochée, cacher et taire son identité n'est pas une solution adéquate et que face au risque de persécution, la seule option crédible consiste à se serrer les coudes et à se montrer solidaire. Quelques remarques historiques s'imposent sur ce point. D'abord, durant la période hellénistique, le judaïsme était très peu homogène. Cette situation perdura jusqu'à l'époque du 1er siècle. Ainsi, les fidèles du Temple de Jérusalem, ceux des différentes synagogues d'Israël, d'Égypte, de Babylonie, d'Asie mineure, de Grèce et de Rome, les membres des communautés installées dans le désert judéen, notamment la communauté de Qumran, tous ces groupes pouvaient avoir des pratiques et des croyances assez différentes. Ce n'est qu'après la destruction du Temple de Jérusalem par les Romains, aux alentours de 70 après de notre ère, que le judaïsme, à ce moment-là, le judaïsme rabbinique s'est imposé progressivement. Mais au moment de la rédaction du livre d'Esther, une large tendance du judaïsme était tentée par l'assimilation à la culture et aux pratiques dominantes des lieux dans lesquels ils étaient installés. Or, la tension entre un judaïsme en voie d'assimilation à une culture aussi prestigieuse que celle du monde hellénistique et un judaïsme plus attaché aux valeurs traditionnelles a caractérisé les trois siècles avant notre ère et a perduré par la suite. Pour les Juifs de l'Antiquité, il faut bien comprendre que des questions très concrètes se posaient, telles celles de savoir s'il était nécessaire de respecter le sabbat, s'il était possible de participer à une vie sociale incluant des repas et des banquets qui ne respectaient pas les principes rituels juifs, sans parler des questions posées par la scolarisation des jeunes juifs dans les gymnases hellénistiques. Voilà. La révolte, les communautés juives ont été aussi confrontées à des conflits avec les groupes qu'elles côtoyaient qui ont débouché sur un certain nombre de persécutions. La révolte maccabéenne des 167 avant notre ère, survenue au cœur de la terre d'Israël lorsque le souverain grec Antiochus IV dédia à Zeus le temple de Jérusalem, est caractéristique des tensions qui se sont cristallisées durant cette période. Les différents groupes juifs ont eu constamment à se situer entre assimilation à la culture dominante de l'Antiquité et défense de ce qu'on pourrait appeler une identité traditionnelle. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le livre d'Esther et son message. Un deuxième grand motif, j'y ai déjà fait allusion, porte sur l'action de Dieu dans l'histoire. Dans l'Antiquité, les questions d'ordre religieuse occupent une place considérable et on y trouve guère de récits qui ne mentionnent pas le ou les dieux. Or, on a souvent remarqué que le livre d'Esther ne comporte aucune mention explicite de l'action divine et une lecture attentive du livre montre même que Dieu n'y est jamais mentionné. Esther et Mardochée ne s'adressent jamais à lui et lorsqu'il s'agit de préparer la venue risquée de la reine auprès du roi, c'est un jeûne qui est organisé sans que Dieu ne soit là encore mentionné. Pourtant, cette absence de Dieu, on pourrait dire d'une certaine manière, est trompeuse. En effet, sans que Dieu soit explicitement mentionné, l'ensemble du récit semble profondément marqué par la providence, mais l'activité de la providence, on pourrait dire l'intronisation d'une juive, au chapitre 2, le déjouement du complot des eunuques par Mardochée, l'insomnie du roi, et la venue matinale d'Aman auprès de lui, au chapitre 6, le fait que Esther soit particulièrement inspirée, ou maligne, en tout cas intelligente, font décidément trop bien les choses pour être le seul fruit du hasard. Ce que d'ailleurs suggère la spéculation de Mardochée, au chapitre 4, verset 14, que vous avez ici. « Or, qui sait si c'était pour une occasion comme celle-ci que tu es arrivé à la royauté ?» Et l'affirmation de la femme d'Aman en 6.13, « Si Mardochée, devant qui tu as commencé à déchoir, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, car tu vas sûrement continuer à déchoir devant lui. » Dès lors, on peut penser qu'au lieu de dire explicitement que Dieu est à l'œuvre, le livre d'Esther utilise une technique littéraire qui engage le lecteur à discerner derrière les événements et les actions la volonté divine, l'action des hommes et des femmes. Cette technique caractérise d'autres récits décrivant la situation de juifs en terre étrangère et justement on la retrouve notamment dans le cycle de Joseph où l'action divine est pratiquement jamais mentionnée, mais à la fin du récit, Joseph mentionne, et il le dit à ses frères, « Je suis Joseph, votre frère, moi qui vous ai vendu en Égypte, mais ne vous affligez pas maintenant et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu ici, car c'est Dieu qui m'y a envoyé avant vous pour vous conserver la vie. » Voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que Joseph, le personnage du récit, il interprète les événements. Donc ça, c'est vraiment un enjeu essentiel. On vous raconte une histoire sans mentionner Dieu, et tout d'un coup, il y a un personnage qui interprète les événements. Dans le livre d'Esther, d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a la même chose, sauf qu'il n'y a pas de personnage qui interprète les événements. Celui qui doit interpréter, c'est le lecteur. D'accord ? Voilà. C'est un procédé, à mon avis, c'est encore plus efficace que de dire que Dieu... Si simplement le texte avait dit, bon, ben voilà, Dieu a rendu le roi insomniaque, ce sera à mon avis moins efficace. Cette position d'interprète de la vie est celle qui caractérise le plus souvent, d'ailleurs, l'attitude de la personne humaine. En effet, l'action divine n'est jamais évidente, les hommes et les femmes peuvent espérer, croire en l'action divine, mais sans nécessairement la percevoir. Même si un croyant peut être profondément convaincu qu'en une circonstance particulière, Dieu a été à l'œuvre pour lui, un témoin extérieur vous dirait, mais c'est le hasard, ou voilà, il a trop bu, ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est tout l'enjeu. Et je pense que là, il y a déjà cette problématique dans le livre d'Esther. Donc le lecteur d'Esther est appelé à se demander si les événements heureux qui sont décrits sont dus au hasard et à la volonté des hommes ou s'ils font partie d'un projet plus large, un projet de Dieu. Un dernier point que je voulais également relever avec vous, c'est la question de la violence dans le livre d'Esther. Évidemment, un des aspects les plus contestés du livre d'Esther est sans aucun doute son caractère extrêmement violent. Cette violence s'exprime principalement dans les deux derniers chapitres du livre, le massacre de tous les ennemis des Juifs à l'occasion d'une vaste opération défensive, un peu profondément choquée, et en fait a profondément choqué de nombreux lecteurs de ce texte. Il s'agit tout d'abord de rappeler que ce vaste massacre est de nature littéraire, s'il a fait couler beaucoup d'encre, il n'a pas fait couler beaucoup de sang. De plus, l'utilisation des chiffres relativement extravagants, 775 000 morts, vise à souligner que le triomphe des Juifs est universel. Donc c'est un motif aussi idéologique, je dirais. Mais est-ce que ça veut dire qu'une telle violence est légitime ? Il faut quand même se poser la question, même si elle est littéraire. Sans justifier l'usage massif de la force, il convient de relever que dans le livre d'Esther, le massacre des ennemis des Juifs est lié au fait que, bizarrement, le décret injuste publié par Haman au nom du roi perse ne peut pas être annulé. Or, le livre d'Esther décrit à plusieurs reprises un pouvoir perse au fonctionnement étrange, voire dysfonctionnant. C'est un tribunal, ça on l'a vu, de juristes ivres qui condamnent la reine, enfin, etc. Donc il y a toute une série de motifs qui montrent que l'Empire semble dysfonctionner. Donc loin d'un monde idéal où les auteurs du livre d'Esther, enfin, ce qui est probablement important, c'est que les auteurs du livre d'Esther considèrent qu'au fond, on est face, enfin, où ils se trouvent face à un monde et un empire qui est en partie dysfonctionnel et qui est dangereux. Et c'est au fond ça qui justifie, ou qui peut justifier, le fait de prendre les armes. Et ça, évidemment, on se trouve probablement dans une même réflexion que ce qu'on a au moment où Mattathias, le gouverneur, le premier juif à se révolter contre Antiochus IV, au moment où il déclenche la révolte maccabéenne, il harangue ses coreligionnaires en ces termes, groupez autour de vous tous ceux qui observent la loi et assurez la vengeance de votre peuple, rendez aux païens le mal qu'ils vous ont fait. Donc c'est bel et bien un processus de défense d'une certaine manière, mais c'est un peu un même contexte probablement. Alors évidemment, on peut ne pas apprécier cette réflexion qui se déploie à la fin du livre d'Esther, et on pourrait préférer que le livre se termine simplement par la mort d'Haman et l'annulation du décret contre les Juifs. Ce n'est pas le cas, car de toute évidence, les rédacteurs de ce dernier chapitre estiment que la prise des armes est parfois nécessaire face à un empire à la fois puissant et injuste. Ici, à nouveau, on peut voir que les problématiques qui surgissent à l'époque hellénistique, avec les confrontations de plus en plus violentes entre l'hellénisme et le judaïsme traditionnel, apparaissent dans le livre d'Esther. Donc, c'est une observation qui rend assez vraisemblable la datation de ce texte à l'époque maccabéenne. Maintenant, une dernière chose, comme vous le savez, je le rappelle simplement ici, je voulais mettre sur le dia. Évidemment, le livre d'Esther se termine par la mise en place d'une fête qui célèbre ces événements, qui est la fête de Pourim. Ça, nous y reviendrons lors de la dernière leçon. Alors, la deuxième partie, mais je vois qu'il faut que je me dépêche, mais enfin, j'ai quand même encore une vingtaine de minutes, donc je vais essayer de faire ça, c'est vous dire quelques mots de l'histoire textuelle du livre d'Esther. Je disais au début de ce cours que vous aviez sans doute lu ou relu le livre d'Esther avant de venir, mais quel livre d'Esther avez-vous lu ? Si vous êtes d'origine juive ou protestante, vous avez probablement lu une traduction française du texte hébreu du livre d'Esther, Bible Second, Bible du Rabbinat. Vous n'avez sans doute pas été surpris de m'entendre commenter et résumer le livre d'Esther comme je viens de le faire. Pour vous, ce cours sur Esther semble bien parti, ou peut-être c'est ce que vous vous dites, j'espère que vous dites que ce prof de Genève semble travailler à peu près normalement. Par contre, si vous êtes d'origine catholique, vous avez peut-être lu une traduction du livre d'Esther assez différente, si vous avez utilisé la Bible de Jérusalem, par exemple, puisqu'elle se base sur un texte grec et non pas sur le texte hebreu du livre d'Esther, la Septante, donc qui est cette traduction grecque. Vous êtes peut-être un peu moins à l'aise parce que vous vous dites que je n'ai pas parlé de toute une partie du livre d'Esther, j'ai oublié de vous parler des rêves de Mardochée, de la prière d'Esther et de la prière de Mardochée. Pour vous, contrairement à ce que j'ai dit précédemment, le livre d'Esther mentionne à plusieurs reprises Dieu, notamment dans ses prières. Cette particularité, pour le moins étrange, vient du fait que le livre d'Esther nous est parvenu donc sous plusieurs formes textuelles. Le texte hébreu massorétique a été retenu par les communautés juives et protestantes, alors que la traduction en grec de la Septante a été retenue par les communautés catholiques. Je vous signale simplement que dans la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, la TOB, bien, comme c'est œcuménique, il y a à la fois un Esther canonique, entre guillemets, l'Esther hébreu, et un Esther grec. Donc il y a les deux versions du texte qui sont présentes. Je vous laisse regarder, puis comparer. Dans toute la première partie de ce cours, j'ai parlé du texte d'Esther hébreu. Et je vais continuer dans cette voie dès la prochaine fois. Mais je vous propose cependant de nous arrêter sur les spécificités des traductions grecques avec cette fameuse Septante. En fait, dès le 3e siècle avant notre ère, la Bible hébraïque fut progressivement traduite en grec, la langue la plus répandue alors. Ce travail, qui a duré plusieurs siècles, a abouti à ce que nous appelons la Septante. Cette traduction contient certains livres ou parties de livres que les Juifs n'ont finalement pas retenus dans leur Bible officielle, Judith, le Siracide, etc. Or, pour le christianisme, qui s'est essentiellement développé dans le monde gréco-romain, c'est la traduction grecque qui est devenue ou qui a été considérée comme l'Ancien Testament. D'accord ? Dans le cas du livre d'Esther, la Septante pose un problème particulier dans la mesure où les traducteurs grecs ont traduit un texte hébreu proche du texte massorétique, mais y ont inséré 6 additions qui sont énormes parce qu'elles représentent plus de 70% de textes supplémentaires par rapport au texte hébreu. Donc, alors, ils ont à la fois, dans les sections du livre qui sont parallèles au texte massorétique, là, c'est. Voilà, c'est ce que j'ai commenté tout à l'heure. Il n'y a guère de doute que le traducteur a travaillé sur la base d'un texte hébreu très proche du texte massorétique. Ce n'est pas très littéral, mais enfin, ça va, on voit qu'il a utilisé un texte très similaire. Les 6 suppléments qui apparaissent dans le courant du canevas du texte ne sont attestés que dans la tradition textuelle de langue grecque. Ces additions ont sans doute été insérées dans la Septante, soit en même temps, soit plus probablement après qu'une traduction du texte hébreu proche du TM a été effectuée. Ces additions introduisent de nombreuses nouveautés significatives et permettent de mieux comprendre certaines tendances du judaïsme du 2e et 1er siècle avant notre ère. Juste pour que vous sachiez, en ouverture du livre, il y a la mention d'un rêve de Mardochée. Il fait un rêve, ça, il nous raconte ce rêve, bon bref, puis après le récit se déroule, et puis à la fin, il interprète ce rêve, où il y a deux dragons qui se battent, comme ça, enfin, il y a une sorte de combat un peu apocalyptique. Et il interprète donc ce rêve comme accompli par le récit. Dans les additions B et E, on a en fait un texte assez développé du décret contre les Juifs et du décret qui permet aux Juifs de se défendre. Ces passages rédigés dans un grec plus littéraire que celui des autres additions thématisent bien la problématique antisémite. Dans l'addition B, le reproche principal fait aux Juifs porte sur le fait de ne pas se conformer aux droits et aux usages communs et de vouloir nuire à l'Empire. Le massacre envisagé est alors présenté comme une sorte d'œuvre d'utilité publique, quoi. Le deuxième décret prend le contre-pied du premier. Il fait d'Aman un personnage nuisible pour l'Empire, au contraire des Juifs dont les coutumes sont jugées particulièrement bonnes. Et puis, situé après, si vous voulez, après le chapitre 4, où Esther doit décider si elle accepte ou non d'intervenir pour son peuple, l'addition C introduit deux prières, l'une de Mardochée et l'autre d'Esther, qui affirment l'une et l'autre la toute-puissance de Dieu et demandent à Dieu le salut. Dans sa prière, Mardochée affirme que son refus de se prosterner n'est pas causé par de l'orgueil. Quant à Esther, elle demande que Dieu inspire son discours et qu'il change le cœur du roi perse avant d'insister sur le fait que sa situation de reine perse constitue une terrible épreuve. Elle a honte de devoir porter les insignes perses, elle ne participe pas au banquet païen et a horreur de la couche du roi. Voilà. Une dernière addition où, au moment où Esther arrive auprès du roi, c'est très théâtral, ça change beaucoup par rapport à ce qu'on a dans le texte, massorétique. Pour le dire brièvement, les additions, si vous voulez, représentent, ou on peut être d'une certaine manière, représentent des tendances assez typiques de certains groupes du judaïsme. L'addition A et F, donc ces fameux rêves, font penser à l'apocalyptique, donc qui est un mouvement littéraire et religieux qui se développe massivement dans le judaïsme à partir du 3e, 2e siècle avant notre ère. L'addition C, la prière d'Esther et de Mardochée, elle fait vraiment penser à ce qu'un juif orthodoxe dirait en lisant le livre d'Esther. Au fond, Esther ne doit pas être très heureuse de devoir manger avec le roi. Normalement, il n'y a pas de mariage entre juifs et non-juifs, donc elle ne doit pas être très contente d'être mariée avec le roi perse. Et au fond, c'est ce type de problématiques qui sont soulevées. Probablement que les deux décrets de l'addition B et de l'addition E mettent en évidence ce qu'est un discours contre les Juifs dans l'Antiquité. Et moi, je pense que c'est des textes, ceux qui ont rédigé ce décret, l'addition B, avaient probablement entendu quel type de discours on développe dans l'Antiquité contre les Juifs. Voilà. Donc là, je vais... Oui, là, je crois que j'ai résumé, il faut que j'avance un petit peu. Voilà, ça, c'est un petit peu ce qu'on peut dire. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un texte de base, puis ce texte de base, il est d'une certaine manière commenté par les additions. Il est commenté dans des milieux différents. dans un milieu apocalyptique qui insère le rêve et son interprétation, dans un milieu entre guillemets plus orthodoxe qui va introduire les prières d'Esther et de Mardochée, et probablement par des groupes qui connaissent bien le discours antisémite dans l'Antiquité et qui rédigent les additions B et E. Voilà. Oui, alors maintenant je vais juste faire un petit stop technique pour vous montrer comment, maintenant, où est-ce qu'on en est. Ici, si vous voulez, vous avez le texte massorétique qui a probablement été, qui est le plus ancien, il a été traduit en grec, ça devient la Septante, dans le noyau de la Septante, et puis on y a ajouté des additions. D'accord ? Voilà. Maintenant, dans le cas d'Esther, malheureusement, les choses sont encore un petit peu plus compliquées que ça. Je suis navré, mais je vais être assez bref et je vais essayer de vous raconter ça de manière... Oui, de toute façon, je n'ai pas tellement le temps en 5 minutes. Je peux, ça, si je dépasse un tout petit peu, c'est mieux que je sois clair que rapide. Bien, alors je vais faire ça. Dans le cas d'Esther, les choses sont un petit peu plus compliquées parce qu'il y a un deuxième texte grec. Vous avez la Septante, puis il y en a un autre. On a trouvé 4 manuscrits, une autre famille textuelle est assez différente, en fait, de la Septante. Alors, rassurez-vous, aucun d'entre vous, avant de venir, a lu le texte Alpha, hein, parce qu'il n'est pas... aucune Bible classique ne présente ce texte-là. On a des traductions anglaises du texte Alpha, mais aucune en français, à part dans mon ordinateur. Le texte Alpha est assez différent de celui de la Septante. Alors, je vais commenter ce dia, hein. Il est attesté, donc je vous ai dit, par 4 manuscrits, et puis il est environ 15% plus court que la Septante. Donc la Septante est 70% plus grand que le texte massorétique, par contre le texte alpha est un petit peu plus court que la Septante. Comme la Septante, le TA présente, donc vous voyez, les additions. Hein. Ça n'a pas de problème. Comme donc, ils sont pratiquement identiques, les additions ont certainement été ajoutées après qu'une traduction d'un texte hébreu ne comportant pas ces additions ait été effectuée. Les additions ne sont pas tout à fait identiques, on peut dire dans la Septante et dans le texte alpha, mais en fait c'est extrêmement proche. On peut penser que les additions ont été insérées dans le texte alpha, comme dans la Septante, assez tard. Donc, on les enlève, temporairement. Enfin, c'est un peu rapide, mais enfin, disons, pour essayer de comprendre l'histoire textuelle du livre d'Esther, enlevons-les quelques instants. C'est dans les parties du texte d'Esther qu'il partage avec le texte massorétique, hein, donc celle-là, tout ça, on trouve, ce récit, si vous voulez, on le trouve dans le texte massorétique, dans la Septante et dans le texte alpha. Mais à l'intérieur, c'est dans ces parties-là que le texte alpha diffère de manière significative de la Septante. Pour schématiser, on signalera que le texte alpha a toute une série, il y a toute une série de moins, c'est-à-dire de bouts de versets ou d'ensemble de versets qui n'y sont pas présents dans le texte, qui sont présents dans le texte massorétique de la Septante, mais qui sont absents dans le texte alpha. En outre, les choses se présentent de manière différente pour le début, donc jusqu'au chapitre 7, jusqu'ici, et puis pour la finale. Jusqu'au chapitre 7, les différences sont relativement... Elles existent, elles sont présentes, mais elles n'affectent pas fondamentalement ni le sens général du récit, ni la séquence des épisodes. Par contre, la finale, c'est complètement différent. Les implications de la comparaison entre le texte massorétique, la Septante et le texte alpha sur la compréhension de l'histoire des textes d'Esther est relativement complexe et ça fait l'objet d'un assez vaste débat. Grosso modo, il y a deux tendances. Une dit simplement le texte alpha, c'est un grec très tard qui avait la Septante et puis qui a commencé à couper. Pour toutes sortes de raisons, il s'est dit, je vais faire un petit résumé. Voilà, ça c'est une tendance de la recherche que je trouve probablement assez difficile à maintenir parce que on comprend assez mal pourquoi il a coupé que dans les parties communes avec le texte massorétique et puis pas dans les additions. Vous voyez ? Ça c'est un peu une difficulté de la théorie. L'autre position, la plus classique, à laquelle je me rallie, donc je me mets dans le camp des classiques, même si c'est partiellement le cas, le texte alpha, dans cette hypothèse, le texte alpha sans les additions, et avec une finale qui se termine vers 7.21 probablement, constituerait une traduction relativement fidèle d'un texte original en hébreu plus ancien que le texte massorétique, que le texte hébreu classique. Et c'est ça qu'on appelle à ce moment-là le proto-Esther. Ce que le texte alpha aurait traduit. Ça paraît pas trop obscur, excusez-moi, je suis navré, mais c'est comme ça. C'est un peu compliqué, on arrive difficilement à expliquer autrement le phénomène littéraire. Ce qui est intéressant, c'est que le texte hébreu massorétique serait le fruit de développements rédactionnels visant à corriger le texte hébreu plus ancien. La rédaction massorétique aurait retouché le contenu du modèle avec, en insérant toute une série de plus, mais puis aurait largement développé la finale des chapitres 8 à 10. Voilà. Alors, si on revient, voilà, ça c'est le proto-Esther. Voilà, l'histoire textuelle, si vous voulez. Alors, l'idée, si vous voulez, ce proto-Esther, c'est-à-dire l'ancêtre en hébreu de ce texte alpha, court, il aurait été retravaillé, et puis ce serait devenu le texte massorétique. Alors là, après, vous connaissez, traduit en grec, ça devient la Septante, on ajoute les additions. Mais, d'un autre côté, eh bien, ce proto-Esther-là, il aurait été traduit en grec. Et puis, évidemment, après, on aurait ajouté les additions. Donc, nous, on n'a que ça, évidemment. Mais c'est très facile de reconstituer ça. Puisqu'on en a une traduction en grec. Enfin, c'est très facile. Relativement. Voilà. Alors maintenant, évidemment, ce qu'on peut se dire, ce qui est intéressant dans ce genre d'analyse, c'est de voir si ce proto-Esther, en quoi il est différent, quelles sont les idées qu'il véhicule, et puis si elles sont un petit peu différentes de celles du texte massorétique, ben, ça signifie que les rédacteurs du texte massorétique, ils ont cherché à introduire des idées supplémentaires par rapport au texte de base. Et ça, c'est assez clair. Disons, mais pour le dire brièvement, l'Esther, dans le texte alpha, l'Esther et d'une certaine manière Mardoché, ils sont mieux intégrés dans le monde perse. Typiquement, on ne trouve pas la mention du fait qu'il s'agisse de cacher l'identité juive. Ça, ce n'est pas un motif qui est présent dans le proto-Esther. D'accord ? Donc, dans le proto-Esther, ben, voilà, Mardoché et Esther, tout le monde sait qu'ils sont juifs. Et puis voilà, donc ce n'est pas un problème. Mais l'idée que certains juifs cachent leur identité, on n'y fait pas allusion dans le proto-Esther. Donc, visiblement, ce que font les rédacteurs massorétiques, c'est qu'ils introduisent ce motif. Donc on voit que c'est un motif qui, pour eux, est très important. À l'époque de cette rédaction, c'est très important on réfléchit, au fond, sur est-ce qu'on cache son identité quand on va au banquet des Grecs ou pas. Hein? Ou, si on ne cache pas, évidemment, on n'y va pas. Bon, ça c'est un premier motif. D'autre part, il y a un autre élément, c'est que dans le texte, dans le proto-Esther, l'Empire perse n'est pas aussi absurde que dans le texte massorétique. Donc visiblement, il y a une espèce de critique du fonctionnement de l'Empire, vous voyez qu'ils font allusion à l'Empire hellénistique en parlant officiellement de l'Empire perse. Mais ça, c'est beaucoup plus développé dans le texte massorétique que dans le texte alpha. Et l'élément qui manque dans le proto-Esther, enfin, pour ceux qui lisent le texte hébreu, c'est le motif de l'irréversibilité des lois perses. Et je vous rappelle que c'est parce que les lois sont irréversibles que ça génère le massacre. Dans le proto-Esther, ce n'est pas le cas, et tout à fait logiquement, le récit se termine par l'exécution d'Aman. Et puis c'est fini. Donc c'est vraiment deux textes qui sont assez différents, hein. Et visiblement, quel groupe a inséré, enfin, la question est, évidemment, le proto-Esther est probablement véhiculé par un milieu juif, et puis le texte massorétique a repris ce texte de base et puis l'a amendé dans un autre contexte. Visiblement, dans le premier cas, le proto-Esther n'est pas... disons, ne part pas de l'idée, enfin, la question de prendre les armes n'est pas une question. C'est-à-dire que personne n'envisage de prendre les armes, en tout cas, les rédacteurs du proto-Esther ne l'envisagent pas. Ce sont les rédacteurs ultérieurs, ceux qui ont retouché ce texte, qui ont introduit ce motif. Raison pour laquelle, évidemment, on peut situer ce texte à l'époque maccabéenne, puisque c'est au fond à ce moment-là que ce thème devient très important. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai un peu fait la synthèse de la fin de ma contribution et non, je n'ai pas pu vous dire l'ensemble, mais j'espère que c'était quand même relativement clair.